4つ。Cette veille de Noël, Matiote s'était dirigé, à la nuit tombante, sans quitter son noir costume de ramoneur, vers l'hôtel du Plessis Morembert. Le hasard d'une cheminée à nettoyer l'avait amené là, certains soirs de Noël, où le comte de Morembert disposait dans l'âtre une énorme pyramide de jouets et de sucreries que devait y découvrir le lendemain matin son fils Jacques. Matiote avait le même âge que l'enfant du comte, qui, surprenant le regard, non pas d'envie mais d'admiration, lancé à toutes ces belles choses par le petit ramoneur, et séduit par l'air intelligent et honnête du jeune ouvrier, avait causé quelques instants avec lui avait donné une pièce d'or et l'avait fait dîner à l'office. Le souvenir attendri de cette aubaine ramenait là depuis 3 ans, à pareille date, le petit ramoneur, qui chaque fois y retrouvait le louis des traînes et la soupe grasse, vers lesquels il était conduit, il faut le reconnaître, tout autant par la reconnaissance que par la gourmandise ou l'intérêt. Or, ce soir-là, qui était le 24 décembre 1793, il ne fut pas peu déconfit en trouvant l'hôtel fermé. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres. Il laissa retomber plusieurs fois le marteau de la porte sans obtenir de réponse. Il était sur le point de s'en retourner, très déçu, lorsqu'à l'extrémité de la rue, il distingua dans l'ombre déjà épaisse les silhouettes d'un enfant et d'un homme qui marchaient à grands pas vers l'hôtel. Matiote reconnut Jacques de Morembert et courut à lui. « C'est toi, mon pauvre garçon, » fit le jeune gentilhomme tout ému. « Viens, viens vite, entrons. » Et dès qu'ils furent dans la maison, Jacques éclata en sanglots. « Il y a 8 jours, dit-il, que mon père est arrêté. Le comité révolutionnaire de la section l'a dénoncé. Avant la fin de l'année, il passera devant le tribunal. Mon pauvre Matiote, mon père est perdu. » Et les sanglots de l'enfant redoublèrent. Matiote, consterné, apprit, lui dont la terreur n'avait en rien changé l'existence, que le comte était accusé d'incivisme, crime terrible à cette époque, et que l'échafaud l'attendait. Depuis 8 jours, Jacques allait chaque soir devant la prison. On lui avait refusé la consolation de parler à son père, mais du moins il voyait, à travers les barreaux d'une petite fenêtre donnant sur la rue, le comte qui lui envoyait des baisers. L'enfant restait là jusqu'à la nuit, à l'heure où la prison s'éclairait. Il revenait d'accomplir ce douloureux pèlerinage au moment où Matiote l'avait rencontré. « Ne vous désolez pas, monsieur Jacques, » fit le petit ramoneur, consterné de ce qu'il venait d'apprendre. « Il n'est pas possible que ces mauvaises gens fassent mourir monsieur le comte, qui est si bon et si charitable. Hélas, c'est cela même qui le perdra. Prenez courage, laissez-moi faire. Que pourrais-tu tenter? Toute démarche ne ferait que hâter la condamnation. » Et Jacques recommença à pleurer. Matiote le consola de son mieux. Les 2 enfants restèrent seuls près 1 heure. Quand le ramoneur quitta l'hôtel, la nuit était tout à fait tombée. Il reprit allègrement et presque joyeux le chemin du centre de Paris. Le comte de Plessis Morembert avait été écroué à la prison de l'abbaye. Dans les premières heures de sa captivité, en proie à cette surexcitation rageuse qui enfièvre tous les détenus, il avait tourné dans son cachot comme un fauve en cage, explorant le moindre coin de son réduit, secouant les barreaux de la fenêtre, cherchant à ébranler la porte, s'efforçant à découvrir quelque moyen d'évasion. La solidité des grilles qui obstruaient sa croisée, l'épaisseur des murs, l'énorme dimension de la serrure que maintenaient de fortes vis, eurent bientôt dissipé ses illusions. À cet inévitable affolement, l'inactivité forcée avait fait succéder de longues heures de prostration. Une sorte de résignation calme s'était enfin emparée de lui, et ce soir-là, sous la lueur trouble d'une lanterne qu'avait allumée son geôlier, assis dans l'unique fauteuil de paille qui meublait sa prison, le front dans la main, les yeux fixés sur l'âtre vide, il songeait avec mélancolie. Sa pensée allait à la maison où il se savait aimé. Il voyait son petit Jacques en larmes, seul dans l'autel désert, joignant les mains pour prier Dieu. Et il se rappelait les soirs d'autrefois, à pareille date, où l'enfant mettait, avant de s'endormir, ses escarpins devant la cheminée, dans l'espoir d'une visite du petit Jésus, visite qui ne manquait jamais. Que penserait Jacques demain, lorsqu'en s'éveillant, il s'apercevrait que l'enfant Dieu l'avait oublié? Et à la pensée de cette déception inévitable, le comte de Morembert fixait ses yeux pleins de larmes sur son foyer sans flamme, tout ému au souvenir des soirs heureux, où sans bruit, il se glissait dans la chambre de son fils endormi et disposait dans la cheminée les jouets enrubannés, les fiers soldats de bois couchés dans leurs boîtes de sapin blanc, les oranges d'or, les fruits glacés dont l'arrangement prodigieux arrachait à l'enfant dès son réveil des exclamations de bonheur. Tandis qu'il se laissait aller à son rêve attristé, un bruit strident se fit entendre dans la cheminée. Une pluie abondante de gravois et de suie crépita sur l'âtre de pierre, suivie presque aussitôt d'un volumineux paquet étroitement sanglé qui tomba lourdement et roula jusqu'au milieu du cachot. Grandement surpris de cette anormale aventure, le comte s'était levé et ses regards allaient de la cheminée au mystérieux colis lorsqu'il aperçut tout à coup deux pieds se balançant au-dessus du foyer. En un instant, ses pieds atteignirent le sol, une forme noire s'accroupit dans l'âtre et d'un effort sauta dans la chambre en même temps qu'une voix prononçait ces mots. « Ne craignez rien, monsieur le comte, c'est moi, c'est Matiotte. » C'était Matiotte, en effet. Debout devant le prisonnier, le visage et les vêtements noirs de suie, il souriait, montrant ses dents blanches. Ses yeux, dans sa face d'encre, paraissaient clairs et brillaient d'un étrange éclat. « Matiotte, fit le gentilhomme, cherchant à rappeler ses souvenirs. « Je ne vous ai pas oublié, moi. J'arrive de chez vous. Monsieur Jacques va bien. Dame, il n'est pas gai. Mais nous parlerons de lui plus tard. Je viens vous chercher. » « Me chercher ? Oui, ne perdons pas de temps. Parlez bas. J'ai tout ce qu'il faut. Voici d'abord des vêtements pour vous. » Et le petit ramoneur, fébrilement, dénouait le paquet de haillons qu'il avait précédé. « Je les ai pris chez mon patron. Voici un rouleau de louis que Monsieur Jacques m'a donné. Il y a 2000 francs, m'a-t-il dit. Ça peut servir, mais il faut les cacher. Dans un quart d'heure, nous serons dehors. » « Mais par où sortir, mon pauvre petit ? Tu n'espères pas me faire prendre la route que tu as suivie ? D'ailleurs, où nous mènerait-elle ? Sur les toits ? Comment es-tu parvenu toi-même à trouver le chemin de mon cachot ?»« Monsieur Jacques m'avait dit, la dernière fenêtre à l'angle de la rue Sainte-Marguerite. J'ai bien examiné. Avec un peu d'habitude, rien n'est plus facile. Mais, monsieur le comte, je ne vous répondrai plus, si vous le permettez. Nous causerons dans la rue. Je me mets à l'ouvrage, habillez-vous. » Matiotte était allé à la porte du cachot et examinait la serrure. Il tira de sa poche un tournevis et se mit en devoir de détacher l'énorme ferraille. Il travaillait avec une précision pleine d'habileté. Le prisonnier le regardait faire ébahi. Il était dans une de ces situations d'esprit où l'âme amolie et découragée est d'avance subjuguée et soumise. À un geste impératif de Matiotte, il obéit presque machinalement, ôta sa redingote et par-dessus ses autres vêtements commença à revêtir le pantalon raide de suie, la veste huileuse et noire que l'enfant avait apportée. Sur un autre signe, il rejeta sa perruque, alla à la cheminée, se noircit hardiment les mains et le visage. Il avait l'aspect d'un ramoneur accompli lorsqu'il revint vers Matiotte, qui d'un air de triomphe, sans dire un mot, lui montra la serrure enfin détachée. L'enfant approuva d'un signe de tête la transformation du gentilhomme, puis s'approchant de lui, il lui dit à voix basse « Vous êtes sauvé, prenez sur vous l'argent, cachez-le. J'ai gardé un louis dont j'aurai besoin. Vous descendrez l'escalier derrière moi. Quand je m'approcherai de la sentinelle, passez votre chemin sans vous arrêter. Sortez hardiment dans la rue et tournez à gauche sans hésitation, c'est bien entendu. » Le comte lui répondit par un serrement de main. Matiotte ouvrit la porte, jeta un regard dans le couloir, il était désert. Sans précipitation, il livra passage au prisonnier, sortit avec lui, ramena la porte, et tous deux s'engagèrent dans le corridor et descendirent l'escalier. Dans le vestibule de la prison, le geôlier, qui depuis moins d'une heure venait de prendre la garde, dormait dans une cage vitrée que chauffait un poêle de terre et qu'éclairait mal une lanterne posée sur une table. Le comte, guidé par l'enfant, se tint dans l'ombre où sa silhouette noire disparaissait entièrement, tandis que Matiotte, hardiment, tapait à la vitre et réveillait le gardien. « Cordon, citoyen !» Le geôlier ouvrit les yeux, dirigea la lumière de sa lanterne vers celui qui l'appelait, ne vit que l'enfant chargé de cordes, de crochets, de balais, accessoires indispensables, et rassuré, tira le cordon. La porte s'ouvrit. Le comte mit le pied sur le seuil. Mais c'est à peine s'il put contenir un mouvement de recul à la vue de la sentinelle qui, au bruit du loquet, s'était retournée. Mais Matiotte avait tout prévu. « Excusez, militaire, dit-il, dès que la porte fut retombée sur lui. « Si vous vouliez m'indiquer où est le chef de poste ?»« Le chef de poste, qu'est-ce que tu lui veux ? Que fais-tu là ? Qu'est-ce que cet homme qui sort ? On ne passe pas !»« Je voudrais remettre à votre officier une pièce d'or que j'ai trouvée là-haut, dans une chambre vide, en balayant les cendres de la cheminée. La voici, je ne sais qu'en faire. » Et l'enfant montrait au soldat un louis neuf qui, dans la nuit, scintillait au bout de ses doigts noirs. Le sans-culotte, Matiotte l'avait flatté en l'appelant militaire, examina la pièce et la mit dans sa poche. Le louis, à cette époque, valait 200 francs d'assignat, et très radouci, grommela. « C'est bon, je la remettrai moi-même au chef, ce n'est pas la peine de le réveiller pour si peu. »« Merci, citoyen. De rien, Moricaud. » Et Matiotte, tout courant, rejoignit le comte de Morembert, qui pendant ce colloque avait gagné le large et s'éloignait à grande enjambée dans la rue de Bussy. Le brave enfant avait son plan. Il n'ignorait pas qu'il était impossible de cacher le comte dans Paris. Les visites domiciliaires rendaient illusoire toute tentative de dépister la police. Et d'ailleurs, où trouver à cette époque de terreur un être assez héroïque, assez fou, pour offrir, ne serait-ce que pendant une nuit, l'hospitalité à un prisonnier évadé, dont la fuite allait, dès le lendemain, être signalée à tous les agents du comité de sûreté générale. Aussi Matiotte avait-il résolu de sortir de France et de gagner la Savoie. Là, du moins, il connaissait une maison, celle de ses parents, où son noble protégé pourrait séjourner sans danger, jusqu'à ce que fût passée la tourmente révolutionnaire. En 10 jours, la frontière pouvait être atteinte, et 2 Savoyards, retournant au pays dans leur costume national de ramoneurs, avaient grande chance de n'éveiller sur la route aucun soupçon. Par surcroît de précaution, il enveloppa d'une bande de toile la tête du gentilhomme, comme si quelque blessure avait nécessité ce pansement, destiné en réalité à expliquer le mutisme absolu que devait observer le comte dès qu'on se trouvait en présence d'un tiers. Matiotte se chargeait de répondre à toutes les questions, de décourager toutes les curiosités. D'ailleurs, ils n'en éveillèrent aucune. Au bout du 2nd jour de route, le comte de Morembert, mal accoutumé à la marche, privé de tout le confortable auquel il était habitué, mangeant du lard dans les auberges, buvant de l'eau aux fontaines, couchant sur la paille dans les granges, n'avait plus besoin de se contraindre et jouait au naturel le personnage d'un ouvrier harassé, malade, blessé, se traînant tant bien que mal sur les routes pour regagner son pays. Personne n'eût pu soupçonner ainsi devant, dans cet homme amaigri et sale, qui ne parlait pas, mais dont le jeune compagnon baragouinait avec tant de facilité le patois savoyard. Le comte, d'ailleurs, admirait l'ingéniosité et la force d'âme de cet enfant qu'il avait sauvé. Jusqu'alors, il n'avait pas été à même d'apprécier les robustes vertus des gens du peuple. Pour tout dire, en véritable gentilhomme, il n'y croyait guère, et c'était pour lui un sujet toujours nouveau d'étonnement que le dévouement, le désintéressement absolu de ce pauvre ramoneur qui risquait sa vie en reconnaissance d'une soupe grasse et d'un louis d'étrennes. Tout le jour, pendant les longues marches, le comte paraphrasait en lui-même ce mot célèbre « Où diable la vertu va-t-elle se nicher ?» Et si son orgueil aristocratique ne souffrait pas de la leçon, du moins l'opinion toute faite qu'il avait de l'âpreté des vilains s'en trouvait-elle fortement ébranlée. 12 jours après leur départ de Paris, les fugitifs arrivaient enfin au dernier village français. Matiotte, frais, dispos et plein d'entrain, le comte harassé, boiteux, se traînant à peine. Il s'était arrêté, après toute une nuit de marche, dans une auberge où il se faisait servir du pain et du beurre, quand l'hôtelier s'adressant à Matiotte, « C'est ton père ? » demanda-t-il, désignant le comte. « C'est le frère de mon patron. » « Il est malade ? » ?»« Il a été blessé en tombant d'un toit. Je le ramène au pays. »« Tu as un passeport ? » ?»« Un quoi ? » ?»« Vous ne passerez pas la frontière sans papier. » Le pont est gardé par les patriotes. Hier encore, ils ont arrêté 2 émigrés déguisés en marchands de fromage. Matiotte devint pâle sous la couche de suie qui recouvrait son visage. Il n'avait pas prévu ce dénouement. Pourtant, il se contint. « Je ne sais pas, répondit-il simplement. J'aimerais bien passer tout de même, car je voudrais être arrivé. Le vieux ne peut plus se traîner, ajouta-t-il d'un ton de confidence. « Pour passer, il faut des papiers, » répliqua l'homme. Et il s'occupa d'autre chose. Une heure plus tard, les fugitifs, assis sur un tronc d'arbre au bord du chemin, s'ingéniaient sans y réussir à trouver un moyen de franchir le dernier obstacle qui les séparait du salut. Devant eux, la route descendait toute droite jusqu'au bord d'un ruisseau qu'elle franchissait sur un pont. Au-delà de ce pont, c'était l'étranger. Il n'en était pas à 500 toises, et même ils apercevaient le poteau peint aux couleurs de Savoie qui marquait la frontière. Mais à quelques mètres en deçà du ruisseau, ils apercevaient devant le poste de la douane 10 de patriotes bien armés, chargés de garder le passage. « Écoutez-moi, monsieur le comte, » disait Matiotte, « vous allez faire un dernier effort. Nous nous jetterons à travers champs. Nous passerons le ruisseau sur la glace et... » « C'est impossible, mon pauvre Matiotte. C'est à peine si je peux mettre un pied devant l'autre. Je ne saurais pas faire 3 pas dans cette terre gelée. » « Alors essayons de gagner le poste. Pendant que j'amuserai les soldats, vous rassemblerez toutes vos forces et en courant jusqu'au pont. » « Courir ? » fit piteusement le comte en montrant ses jambes endolories. Du reste, les balles de leurs fusils m'auraient vite rattrapé. Ils tireront, soit, mais ils peuvent vous manquer. Et ils te garderaient prisonnier, et tu paierais de ta vie ton dévouement. Je n'y consentirai pas, mon pauvre enfant. Alors, fit Matiotte, tout triste. Alors c'est fini, nous échouons au port. Abandonne-moi sur cette route, et gagne la frontière à travers champs. Je ne me livrerai que quand je te verrai en sûreté. Matiotte se gratta la tête et après quelques instants de silence réfléchit. « Nous avons une dernière chance, monsieur le comte. Nous allons tranquillement nous avancer sur la route jusqu'à l'endroit que gardent les soldats. S'ils nous demandent nos papiers, vous continuerez à marcher aussi vite que vous le pourrez, pendant que je déboutonnerai lentement ma veste et que je ferai semblant de chercher notre passeport dans mes poches. Vous aurez ainsi gagné quelques toises. Après, dame, à la garde de Dieu. Seulement, L'enfant hésita à poursuivre. « Eh bien, seulement, puisque nous ne sommes pas certains d'échapper, il est inutile que vous gardiez sur vous le rouleau de louis. Si on vous fouillait, une telle somme en or vous compromettrait irrémédiablement. » Le comte acquiesça d'un signe de tête. Les derniers mots de Matiote lui révélaient la réalité. Vraiment, il était bien ridicule d'avoir pu penser qu'un enfant du peuple le servait, lui, gentilhomme, par pur dévouement. C'était la première fois qu'il se laissait prendre au simulacre de désintéressement d'un ouvrier. Mais l'expérience était concluante. Le jeune Savoyard n'avait eu qu'une idée, s'approprier cette somme qui pour lui était une fortune, et il se faisait ainsi payer ses services. Le comte tira l'argent de sa poche et, avec une moue de mépris, la mit dans la main de son compagnon. Puis, passant la main sur son front pour en chasser les pensées amères que lui inspirait sa déception, il se leva péniblement. « Je vais me livrer, dit-il. Toi, tâche d'échapper si tu peux. Tu as raison, chacun pour soi. » « Je ne vous quitte pas, répondit Matiote, qui le suivit tout joyeux. » Quelques minutes plus tard, les fugitifs arrivaient devant le poste. Les soldats, sans méfiance en présence du costume caractéristique des deux voyageurs, les laissèrent passer non sans quelques ricanements. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas vers le pont que l'officier, pris de soupçons, appela ses hommes. « eh bien, fit-il, en voilà deux qui violent la consigne. Eh, petit !» Matiote sembla ne pas entendre. C'était quelques toises de gagner. « T'arrêteras-tu, garnement ?» Matiote se retourna et d'un air étonné revint vers le poste, tandis que le comte, rassemblant ses forces, se hâtait vers la frontière. « Que me voulez-vous, citoyen ?» demanda naïvement l'enfant. « Ton passeport ?» « Et ton compagnon là-bas, il est donc sourd ?»« Il est blessé. »« Qu'il s'arrête ou nous faisons feu. »« Citoyen, ne tirez pas, mon passeport, mais je vais vous le donner, mon passeport. » Et tout en surveillant du coin de l'œil le comte de Morembert, qui n'était plus qu'à quelques mètres du pont, Matiote plongeait la main dans toutes ses poches, retournait sa casquette, vidait son sac. Cette manœuvre n'échappa point à l'officier, qui, devinant le subterfuge, appela ses hommes d'un formidable juron. « Tirez donc ! Vous ne voyez pas que c'est un ci-devant qui vous brûle la politesse ! Abattez-moi cet homme-là ! Feu ! Feu !» Tous les fusils s'abaissèrent. Matiote, d'un bond, se jeta devant eux. Les soldats hésitèrent à fusiller à bout portant cet enfant désarmé. « Feu ! Répéta l'officier. « Faites feu ou il nous échappe !» Mais à ce moment, Matiote, prenant à pleine main les pièces d'or qui remplissaient sa poche, les jeta, comme des dragées de baptême, aux pieds des soldats prêts à tirer. En un instant, ce fut une indescriptible mêlée. La vue de cet or roulant sur la route affola les hommes qui, jetant leurs armes, se précipitèrent pour le ramasser, se bousculant, se renversant, s'arrachant ce butin inespéré. Matiote ne s'arrêta pas à considérer cet épique tableau. Déjà, il avait rejoint le comte de l'autre côté du pont, hors de France. Et tandis que les soldats luttaient encore, se disputant une dernière pièce, l'enfant, levant sa casquette, cria dans son patois savoyard « Et viva la liberta !» Et il alla rejoindre son compagnon, qui, harassé, pleurant de joie, de fatigue et de reconnaissance, était tombé au pied du poteau aux trois couleurs de la Savoie.